Bonjour Jean-Luc Godard.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va pas trop mal.
Vous avez un nouveau film, et comme souvent chez vous, vous êtes parti d'un titre, je crois.
Oui.
Adieu au langage.
Oui.
Pourquoi ce titre?
Oh, grosso modo, ça voulait dire adieu à ce que les gens appellent le langage qui ne l'est pas. On pourrait dire aujourd'hui de la conversation ou du talk show ou même du dialogue personnel entre les gens aujourd'hui qui est autre chose, c'est qui est la langue, le langage, c'est bien plus au fond, ça vient de plus loin, c'est lié. C'est une espèce d'alliance de la parole et de l'image que peut-être l'enfant qui naît connaît un bref moment quand il naît, puisque à la fois il est ébloui et à la fois il crie. Et que ensuite seulement vient, disons, la communication, et que la communication, là, pour moi et certains philosophes, aucun rapport sérieux avec le langage. Ça n'empêche pas du tout qu'on dit les. Oui, enfin, les Anglais parlent comme ça, les Français parlent comme ça, ce qui est autre chose. Il y a la voix, il y a eu la formation dans le cerveau d'un quelque chose qui a permis à la voix de sortir de la bouche, mais ce qui sort de la bouche pourrait être quelque chose de langage, si elle est alliée aussi avec ce qui va avec les yeux et les oreilles, ce que fait le cinéma, si vous voulez, et que ne fait pas la littérature, par exemple. Que fait là aussi la peinture à sa façon, mais que ne font pas tout ce qu'on appelle communication.
Ce que les Anglais aussi appellent small talk.
Oui, small talk, talk show, etc., etc. L'autre jour, j'ai vu comment ça s'appelle, un ostéopathe qui, mais celui que je connais, est beaucoup plus que ça, c'est plus enfin, il me disait juste à propos du chien qui joue dans mon film, qui est le chien d'Anne-Marie et le mien, et qui me disait, on parlait de communication, et qui me disait, les animaux ne communiquent pas, le chien en particulier, il communie.
Il communie.
Oui. Et d'après l'expérience que j'ai avec Roxy, c'est tout à fait vrai. On ne communique pas, on communie.
Qu'est-ce qu'il incarne, ce chien, dans votre film? Une forme de liberté?
Un premier communiant. Quelqu'un qui sert le lien. Disons, les croquettes sont son hostie. Il en avale beaucoup. Mais, enfin voilà des choses, oui. Puisque l'histoire du film, c'est ça, c'est un couple, un duo, qui ne peut plus marcher en duo, qui n'est plus, comme disait un philosophe italien, seulement un individu, mais un individu doué, double. Ou Hannah Arendt disait que dans la solitude, on n'est jamais seul. C'est pas comme dans l'isolement. Dans la solitude, on n'est jamais seul. On est toujours deux, soi et l'autre. Et entre soi et l'autre, on sait bien qu'aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup, on communique beaucoup, et comme ça, mais il n'y a pas de lien. Et les animaux, les fleurs, beaucoup de choses, moi, disons, les animaux plutôt. Parce que, oui, il communie.
Et peuvent servir aussi à l'unité d'un
Et
couple.
donc, ils servent non pas une unité, mais à faire les trois personnes. L'un, comme disait le vieux philosophe français, Léon Brunswick, l'un est dans l'autre, et l'autre est dans l'un, et ce sont les trois personnes.
Et ce sont les trois. Et tout cela avec un procédé qui est plutôt utilisé par le cinéma américain ou hollywoodien, la 3D. Vous avez tourné le film
oui,
en 3D,
c'est un
pourquoi
truc. Ben souvent, j'ai toujours, de même que quand il y a eu la pellicule sensible, à l'époque, même à bout de souffle, on avait tourné sur la Gewehr 36, qui était la pellicule la plus sensible par rapport à Kodak. Ensuite, on a pris l'ILF. Bon, j'ai toujours été intéressé par les objectifs, par le zoom, par ceci, qui permettent, oui, de comprendre un peu ce que veulent faire les techniciens avec ça, qui est une petite invention technologique qui ne sert pas beaucoup, comme la brouette, par exemple. Bon, ils inventent la brouette, les techniciens, mais ensuite, elle va servir à quoi? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, on peut servir de la brouette d'une autre façon que vont s'en servir telle et telle personne. Disons, la brouette est une image de... Donc on peut s'en servir, la 3D, ça va. C'est juste quelque chose qui vous fait croire sur un écran à deux dimensions, sur le plat, disons sur une surface plate, que vous pouvez la voir en relief, très modestement. Mais voilà, donc je me dis, ce qui est intéressant, c'est pas d'aller sur cette... ou d'aller vers la profondeur, mais... On voit plus la profondeur à l'époque dans Citizen Kane, quand il prenait simplement des objectifs ouverts et qui faisait des contre-plongées. Il y avait un désir, puisque c'est plat, de faire la profondeur. Un désir qu'a rarement eu la peinture, sauf à l'époque de la Renaissance, quand ils ont inventé la perspective, si vous voulez. Mais ensuite, ils construisaient souvent, Piero della Francesca construisait souvent ces tableaux très soigneusement, avec la perspective, les lignes de fuite et comme ça. Mais après, il n'y avait pas que ça. C'était pour aller ailleurs, dans la religion, ailleurs, ou dans des choses comme ça. Et dans mon film, je cite une parole de Céline, qui disait « Le difficile, c'est de faire entrer le plat dans la profondeur. » Non pas, c'est-à-dire exactement le contraire. Et moi, j'aime bien faire le... D'abord, on dit par esprit de contradiction, mais parce que dans cet esprit de contradiction, on peut trouver une chose contre l'addiction. Une autre diction qui fait qu'il y a aussi le son qui vient, voilà, et que ça va, qu'on va à côté tout en se servant de ça. Mais s'il n'y avait pas eu la 3D, je n'aurais pas fait le même film, ou je n'aurais pas eu, je sais pas, l'envie ou l'ambition de le faire.
En tout cas, ça vous a amusé d'expérimenter cela.
Intéressé, c'est comme si vous prenez un vieux rafio pour parcourir l'Atlantique plutôt qu'un beau transatlantique, en disant bon, enfin je sais pas, de faire le contraire, parce qu'il n'est pas fait. S'il était fait, on le ferait pas. Mais puisqu'il n'est pas fait, ça a toujours été, je crois, dès le début, inconsciemment, puis maintenant complètement inconsciemment, de dire et si c'était pas comme ça.
Et vous aimez bien la contradiction. Sur la 3D, à un moment, vous faites un effet, tout d'un coup, le regard se brouille, ou les images se mélangent quelque peu, et on s'aperçoit que finalement, en masquant un œil ou un autre, on obtient le champ et le contre-champ sur la même image. Est-ce que j'ai bien résumé l'effet ?
Oui, mais si on le voit en 2D, c'est une surimpression. Et suivant le film, ça peut... Que le film, ça peut faire la même chose. Là, disons, c'est un peu plus intéressant. Parce qu'on peut se dire, tiens, on a deux yeux.
Ça permet de se dire qu'on a deux yeux. De se rappeler qu'on a deux yeux.
Oui, et puis ensuite d'en faire quelque chose.
Ce film, Jean-Luc Godard, on y reviendra tout à l'heure. Ce film a été choisi pour Cannes. En sélection officielle pour la Palme d'Or. Flatté, curieux des réactions ou indifférent à ça?
Non, j'ai souvent eu des films à Cannes en sélection officielle ou en sélection non officielle, mais j'ai eu ça, je trouvais normal de... Si on peut concourir et puis de faire plaisir aussi au producteur ou à moi, si je suis coproducteur, de l'aspect commercial que ça amène aujourd'hui, beaucoup plus fort qu'autrefois. Mais je suis très souvent à Cannes, mais bien avant d'avoir fait des films. Je me souviens de la projection de l'Aventura d'Antonioni, qui avait été sifflé à l'époque, et comme ça, sauf qu'il peut être plus, je m'en souviens, plus que sifflé à l'époque, et comme ça, ben voilà.
Souvent présent, mais jamais primé.
Oui, mais c'est pas le problème.
Alors la question, irez-vous présenter votre film?
Ah non, non. Non, c'est plus de... Je suis plus dans cette partie-là aujourd'hui.
Vous n'avez rien à dire à ceux que vous avez appelés dans une formule célèbre les professionnels,
oui, non, mais
de la profession.
Je ne peux pas parler, ils parlent, pour employer ce mot, ils parlent un autre langage que moi, qui pour moi n'en est pas. Donc c'est pas... Que ce soit la critique, les officiels, le producteur même, c'est autre chose, c'est dans un autre monde, où je me souviens qu'un, j'ai lu un entretien avec un enfant autiste, qui avait progressé, qui commençait à pouvoir, quitter son langage à lui et parler le langage des terriens, disons, comme si lui était d'une autre planète et qu'il pouvait. Et il disait, je me souviens, quand je suis né, je n'étais pas là. Voilà.
Vous dites, je ne parle pas ou je ne parle plus le même
langage. Si, je peux. Ben, je suis sur la Terre, je suis un être humain comme n'importe quel autre, donc je peux vous dire rendez-vous à 4h30, je peux vous dire ceci, je peux même des choses plus profondes, plus profondes sur l'amour ou sur ceci ou comme ça, mais je préfère maintenant si j'étais peintre, faire la laisser dans la peinture ou là dans un film qui pour moi n'est pas un film qui est un moment de cinéma comme il y en a d'autres, et donc je n'ai pas à faire semblant ce que je suis en train de faire semblant ici.
Parce que à Cannes, il y a beaucoup de professionnels qui seraient sûrement heureux de parler avec vous, heureux de vous voir. Regardez.
Mais parler, ce qu'ils appellent parler, ne sert à rien. C'est pas de la parole, c'est du talk qui peut être intéressant et nécessaire. Mais il faut qu'il y ait un travail à la main, sinon c'est une déclaration ministérielle ou un truc. Ça n'a plus de sens, tout ce qui s'échange. Ma foi, on est dans ce monde-là, donc je l'accepte et je fais avec. Je me sers d'un iPhone pour filmer s'il faut. Je ne veux pas prendre une grosse caméra ou un gros machin, ou même pour le micro, sauf quelquefois, je ne vais pas prendre un machin comme vous avez là. Je fais au plus simple, c'est-à-dire j'essaye de faire les films qu'un individu doué, alors là il y a encore un autre jeu de mots, car il est non seulement individué, mais il est doué pour faire autre chose et en faire quelque chose avec ça, ou faire les films que les gens ne font pas, que la mère de famille, malgré tout son petit bazar technique qu'elle accepte chez Darty, elle ne fait pas quelque chose avec son enfant ou avec son mari.
Vous faites des films, vous l'avez dit, pour voir ce qu'on ne voit pas et pour entendre ce qu'on ne dit pas.
Voilà.
Je reviens à Cannes, il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part.
Oui, il n'a rien payé, oui.
En référence à l'un de vos films.
Non.
Il vous intéresse, Tarantino ?
Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin.
Un faquin.
Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ça, alors, j'ai plus de... Autrefois, c'est le genre de gens qu'on détestait ou tout ça. Mais plus maintenant. On laisse aller.
Il a pourtant acquis un statut qui est assez rare dans le cinéma et qui a longtemps été le vôtre, celui du réalisateur star. On attend le nouveau Tarantino comme on attendait le dernier Godard ou le dernier Hitchcock.
Eh ben là, c'est là, ça m'a fait du mal, ça m'a pas fait de bien, et voilà. Donc j'ai cherché à m'en échapper par beaucoup de moyens, par les films, par le déménagement, partout, par même par quitter Paris. Que vous avez vécu 30 ans, tout à fait. Donc c'est pas... Et puis cette notion d'auteur qui est arrivée quand les deux ou trois personnes, la nouvelle vague, parce que c'était deux ou trois personnes, hein, Rivette, moi, Truffaut, Chabrol était un peu à côté, c'était un compagnon. Romère était une espèce d'oncle bienfaisant, Melville aussi. Voilà, c'est tout. Roger Lénard aussi. Ou d'autres choses. Sinon, on était trois. Au Canada, ils étaient deux ou trois. Lefebvre, j'ai oublié les noms. Au Brésil aussi. Glauber Rocha, ou comme ça. Ou en Italie, au début, Bertolucci, Sergio Amico, qu'on a oublié. Et maintenant, bon, Bertolucci est devenu un bon gros notaire, de trucs comme ça. Je crois qu'il a eu des accidents aussi, donc paix à son âme. Mais voilà. Donc quand la nouvelle vague a dit la notion d'auteur, c'était simplement pour protester contre le fait que l'auteur du film était le scénariste, que le metteur en scène était juste un technicien, et qu'il en reste encore aujourd'hui. Puisqu'au centre du cinéma, on a un double contrat. Si le film doit être agréé par le centre, parce qu'il peut se faire aussi tout à fait en dehors, un contrat d'auteur et un contrat de technicien. C'est resté encore. Comme quoi. Et puis, cette idée que l'auteur, c'est celui qui écrit. Il y a encore beaucoup de metteurs en scène qui mettent « écrit » et « réalisé ». Qui sont fiers d'avoir écrit. Mais vous pouvez essayer de faire un dessin avec une caméra, vous n'y arriverez pas. Il faut prendre un crayon, il faut écrire. Donc tout ça, c'était contre de dire l'auteur. C'était une époque où de dire l'auteur n'est pas le scénariste. À l'époque, c'est pas Janson, c'est pas X ou Y, c'est le metteur en scène. Et puis c'est devenu, on a oublié ça, on privilégie toujours l'auteur plutôt que de dire au théâtre, on garde le côté encore metteur en scène, qu'on ne confond pas que l'auteur du livret à l'opéra ou l'auteur de la pièce. C'est un peu ce que faire bon marche. Mais ça vient de chez Beaumarchais aussi, qui a créé la société des auteurs à l'époque contre les acteurs. Mais c'est simplement parce qu'on ne payait pas les auteurs et qu'on payait les acteurs. Et puis ensuite, le metteur en scène. À l'époque, les films d'Hitchcock, Hitchcock n'avait pas son nom au-dessus du titre. Il avait son nom en dessous. Après la nouvelle vague, il l'a eu au-dessus. Ouais. Et beaucoup d'autres.
Et Hitchcock n'écrivait pas... ses films, il n'écrivait pas ses scénarios.
Non, c'est pour ça que c'est un plus grand metteur en scène pour moi que d'autres. Il les composait.
avais dit une fois, Hitchcock, c'est un poète maudit qui a connu un immense succès commercial.
Oui, oui, c'est le seul.
Le seul?
Oui. Oui. Rimbaud n'a pas connu ça. Streuil n'a pas connu ça. Vigo n'a pas connu ça.
Poète maudit, vraiment?
Oui, mais c'est pas toujours bien réussi ce qu'il a fait. Mais il y a des choses qui il n'y a que lui qui l'a fait.
Alors, Tarantino, donc, on oublie. Oh, mais oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent aujourd'hui dans la culture populaire d'aujourd'hui?
Mais qu'est-ce que vous appelez la culture populaire?
Le cinéma populaire, la télévision populaire. Je ne sais pas si je dois vous parler de musique populaire, etc.
Moi, je m'intéresse à ce qui se passe. J'écoute, je regarde un peu la télévision. Je me sers même d'un iPhone pour communiquer. Des choses précises, et j'essaye même, si c'est des amis, avec mon iPhone, de leur envoyer plutôt que des textos, ou un mélange de textos et de photos, ou de petites vidéos, c'est-à-dire un film.
Vous envoyez des fichiers de...
Non,
de
pas
films,
de fichiers. Ouais. Non, pas de fichiers, ça c'est la police, mais...
Pardon, c'est un terme d'informatique ou de téléphonie.
Ben
alors,
oui.
Vous envoyez des petites vidéos.
Des petites vidéos.
Par...
Oui.
Par MMS.
Oui,
par,
par exemple, je me sers beaucoup de la publication chez Gallimard des histoires du cinéma pour, quand j'essaie d'exprimer une idée ou comme ça, de m'en servir comme photo, non plus comme critique de film ou comme ça, mais comme quelque chose personnel. Si je parle d'une belle femme, de prendre une photo d'une actrice que j'aimais, etc. Ou d'un paysage, ou tout ça. Ou si je me promène avec mon chien, de prendre encore quelques photos et de mettre... l'autre jour, après que la personne, que ce docteur m'ait dit « le chien communie », eh ben, j'ai pris une ou deux, ou j'ai des milliers de photos de vidéos de Roxy que j'ai pris au cours de ces 4 ans, et j'essaye d'en trouver une qui peut, ouais, qui peut aller avec un petit texte très très banal, un film complètement rudimentaire, si vous voulez. Mais est-ce que les gens ne font pas? Et ils en sont tellement privés que les techniciens inventent plein de trucs, de formules, de génériques, de trucs comme ça, pour dissimuler l'absence de pensée. Et ça marche très bien, ce qu'on appelle populaire, ça marche très fort. Il faut bien se le dire, mais après, il y a un envers quand même, c'est que il y a une vieille loi de Lavoisier qui est encore valable, à mon avis, en tout cas pour moi, qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand on fait quelque chose comme ça, ben on a des difficultés à ranger les bidons en Ukraine, ou pour parler de l'Ukraine aujourd'hui, pour sans parler de l'Afrique qui est entre les deux. On peut dire, d'un point de vue anthropologique, c'est... Ou dans 100 ans, on étudiera cette situation absolument effroyable de l'Afrique, comment c'est devenu petit à petit comme ça.
Comme ça, c'est-à-dire en...
Oui, vous savez, à l'époque, moi je suis né, non, mais à l'époque, j'ai commencé, je ne peux même pas dire que c'était de la politique, mais j'ai signé l'appel de Stockholm. Et ce pauvre appel de Stockholm, qu'est-ce qu'il est devenu?
C'était...
J'ai écouté aussi les gens dire, ou même des philosophes lire, ou des écrivains, ou des politiques dire après les camps de concentration, plus jamais ça. Et puis, moi, à un moment, je crois, dans un film, je fais dire à quelqu'un, oui, plus jamais ça, mais enfin, c'est toujours ça, hein. Plus jamais ça, c'est comme on dit, c'est toujours ça. ça fait... Voilà, bon, c'est toujours ça. On vit dans cette époque-là. C'est toujours ça. Hein. On a la télé, on a des salaires, un peu de salaire, pas beaucoup. Mais on a, il y en a qui en ont beaucoup. Bon, ben, ma foi, on se débrouille. Enfin, c'est toujours ça.
Dans votre précédent film, film socialisme, il y avait un énorme bateau, un paquebot de croisière, comme métaphore de l'Europe ou de nos sociétés occidentales. Et ce bateau, c'était, vous le savez, le Costa Concordia.
Oui, mais à l'époque, c'était une métaphore, c'est-à-dire une image. Pour moi-même, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour ça. Car j'ignorais rien. J'ai jamais eu envie d'aller en croisière sur un paquebot, de débarquer.
Je crois que tous vos spectateurs l'ont compris. Vous n'étiez pas un client régulier des croisières.
Oui, mais ensuite, 2 ans après, cette métaphore me donne l'idée d'un film en 2 parties, dont l'une s'appellerait La nature et l'autre La métaphore. Et de vivre ou de faire vivre une métaphore.
C'est adieu au langage.
C'est adieu au langage. Donc c'est pour, voilà, c'est pour dire ça, ça se suit, parce que ces croisières, c'est effectivement, on ne voyage que de nuit. La nuit, on arrive à Alexandrie, on monte dans un bus qui vous conduit à Louxor, et puis on rentre, et puis... on mange dans un des hamburgers, et puis, non, c'est comme ça. Mais c'est un bon souvenir.
Il n'empêche, le Costa Concordia a son épave toujours vautrée près des côtes italiennes. Vous y voyez un coup du hasard, une prémonition ou un épilogue de votre film?
Le bon cinéma a toujours annoncé en avance, sous une forme métaphorique peut-être, les catastrophes. Petite ou grande, qu'est-ce qu'elle soit. C'est le cinéma qui l'a annoncé. En principe, et dans des films. Et avant son invention, c'était la musique, la grande musique. C'était Wagner, c'était... Et le cinéma a pris une certaine relève. Il l'a annoncé sans succès. Les écrivains aussi, on a décrit... Les écrivains ont décrit carrément dès 1917 toutes les erreurs de la révolution russe à venir. Pour la Chine, ça a pris un peu plus de temps à ce qu'on découvre toutes les fantaisies atroces de Mao Tse-tung, si vous voulez. Moi-même, j'étais enthousiaste du petit livre rouge ou comme ça. C'était plus ponctuel contre certaines gens, contre le dogmatisme de la CGT ou du Parti communiste français. Mais sinon...
Mais tout de même, Jean-Luc Godard, vous n'avez pas été renversé en apprenant que le bateau que vous aviez filmé pour votre film,
non,
comme symbole
non,
de la bah, décadence de nos sociétés...
Avec Jean-Paul, on s'est dit, heureusement qu'on n'y était pas.
Évidemment. Ça paraît tomber sous le sens.
Non, et... comme un accident de train auquel on a échappé, ou un avion qu'on n'a pas pris, alors que il y a peut-être... Mais c'était un peu dans le film. Comme des fois, à certaines dates, vous arrivent certaines choses, et pas d'autres. Et on s'en aperçoit après, c'est qu'il y a tout un symbolisme en nous, et trucs comme ça qui fait qu'il y a une action qui se défait, que si on n'a pas pris l'avion... Avant qu'il soit comme ça, il y a des raisons. C'était peut-être la mort de votre grand-mère ou ceci ou des choses qui font que, oui, ben voilà, ça s'est passé comme ça.
Dans les prochains jours, dimanche en France, l'Europe, toute l'Europe est appelée à voter. Ça vous inspire toujours autant d'ironie ou d'incompréhension, cette Europe-là?
Oui, d'ironie un peu, sûrement. Il y a des bonnes choses qui sont faites, mais j'aime mieux dire, en gros, ce que j'ai dit à un journaliste allemand tout à l'heure. Moi, je suis pour les frontières, mais contre les douaniers.
pour les frontières,
ben, vous voyez,
dans contre les douaniers. Mais s'il n'y a pas de
douaniers... Dans notre film, tous ces bruits-là sont les bienvenus.
Oui, c'est vrai.
Et souvent, Fabrice les envoyait, les enlevait. Je disais, non, non, il faut le remettre.
Mais comment on fait respecter les frontières s'il n'y a plus de douaniers?
Mais les frontières sont faites pour passer. Entre une route et une haie, et ben on passe.
À quoi ça sert alors de garder les frontières?
Mais parce que il y a des gens qui sont comme ça, qui sont là, qui parlent telle langue, d'autres sont là, ils font telle chose et comme ça, et grâce aux frontières, ils peuvent communiquer. Enfin, de la vraie communication, et même des fois, communier. Le reste, après, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est du texte, ou du livre, j'aime mieux dire. On fait que du livre, que des phrases, que des trucs, et comme ça. On privilégie la logique, par exemple, par rapport à la... C'était un département avant, quand j'ai passé mon bac, il y avait trois disciplines. Qu'est-ce qu'il y avait?
L'arithmétique?
Non. Il y avait philosophie.
Ah oui, propédeutique.
Ou littérature, logique, et la philosophie, c'était logique. Et morale. Trois disciplines, il n'y avait même pas... le bac, la science élémentaire est venue après.
Et donc on s'est éloigné, c'est quoi votre idée, c'est que l'Europe s'est éloignée de
l'esprit logique? L'Europe, elle a commencé avec des vieux politiciens plus ou moins honnêtes, genre Monet, je dirais plus ou moins malhonnête, Robert Schuman aussi, d'autres, et ils ont décidé d'associer le charbon et l'acier. Bon, puis une fois qu'ils l'ont fait, la communauté européenne, ils ont décidé, bien plus tard, de faire une monnaie commune. C'est-à-dire, ils ont fait une monnaie commune avant de faire une culture commune. Culture commune ne veut pas dire qu'on pense tout la même chose, que les artichauts pensent pareil aux cerises et que les trucs comme ça, et qu'il faut le faire, je veux dire, on n'est pas des Khmer rouges qui eux sont allés plutôt dans ce sens et qui ont vraiment pris au mot la phrase du passé, faisons table rase. Mais là, pas, donc ça chope forcément. Jamais vous verrez un film norvégien dans une ville du sud de la France. Jamais. Jamais. Vous ne verrez jamais à la télévision, puisqu'il y a 28 États, au moins chaque jour, 28 films de chaque État. Non, mais c'est... Peu importe qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, et que les gens les aiment pas, ou comme ça. Après, ça serait bien sûr beaucoup dogmatique. C'est juste une image pour dire « ça ne peut pas marcher ».
Ça ne peut pas marcher.
Dany, que j'ai bien connu à l'époque de 68, enfin bien moyennement, ensuite qui est devenu un sorte de sénateur du Parlement européen.
Dany Cohn-Bendit.
Oui, et ben il quitte son siège, son rôle, au moment où ça va mal. Ils sont tous comme ça.
Ça va mal parce que justement il y a une poussée d'europhobie, de nationalisme,
etc. Il
vaut mieux que ça aille mal.
Il faut mieux que ça aille mal à un moment parce que le mal vous dit quelque chose. Le mal est votre allié pour vivre bien. Si vous avez mal, on va chez le docteur. Si vous n'avez pas mal, vous y allez pas. Encore que beaucoup de gens y vont quand même.
Donc
c'est pitoyable.
Donc,
c'est gigantesque, mais vous les voyez à la télévision, en costume. Ils ne se sont jamais promenés en Europe, jamais. Quand Dostoïevski est venu à Paris, il est venu à pied, avec une carte d'étudiant. Et là, il a appris le français. Après avoir appris le français, il a lu Balzac. Un célèbre roman de Balzac. il est retourné en Russie et il a traduit le roman de Balzac. Voilà. Je ne suis pas pour parler anglais entre nous. Les gens croient qu'il faut. Mais voilà, c'est la force de l'Amérique. L'Amérique est un pays jeune et qui n'en fait qu'à sa tête, si j'ose dire, mais qui la perd souvent, cette tête. Mais donc, ils imposent, ma foi, ça regarde si les gens veulent faire ça.
Vous ne vous sentez pas européen?
Mais profondément.
Profondément européen.
Mais bien avant la soi-disant fondation de l'Europe. Je me sens européen depuis que depuis Vercingétorix, ou Charlemagne, ou tout, j'ai appris. Si j'ai pas voyagé, j'ai lu. Mais voilà. Non, pas du tout. Et c'était l'Europe. C'était une région. Je vois pas. C'est pas une... comme ça. Que ça puisse aider un étudiant... d'aller étudier, mais comme ça, mais mon père est allé a fait ses études de médecine en France, en Allemagne et en Angleterre. Il avait 3 diplômes à l'époque où c'était pas uni ici. Voilà, il avait envie de faire ça et d'être comme ça. Il avait aucune raison. Il aurait pu faire qu'en France ou qu'en Angleterre.
Donc, tant qu'il n'y aura pas cette envie de passer les frontières et cette culture européenne, ça ne peut,
mais
ça
peut
pas marcher.
Même Poutine, il a envie de passer les frontières.
Il réussit un peu.
Oui, mais il ne se rend pas compte, c'est une phrase qu'on dit dans le film. Hein.
Oui.
C'est l'Europe. La Russie ne fera jamais partie de l'Europe. Elle ne l'a jamais faite. Bien qu'à l'époque de Tolstoï, comme ça, tous les aristocrates parlaient le français. Mais c'est pas ça. Parce que s'ils sont en Europe, ça ne sera plus les Russes. Et donc, ils perdront. Ils perdront leurs caractéristiques de Russes, comme beaucoup de petits peuples perdent leurs caractéristiques, comme beaucoup de langues disparaissent. Et des trucs comme ça. Si c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Mais il n'y a pas besoin de faire semblant. Autant mettre Marine Le Pen à la présidence. Qu'elle y soit, on regarde pendant 5 ans ce qui se passe, et puis après, on la vire. Mais au moins faisons ça, plutôt que de dire.
La politique du pire?
Non, c'est des mots, tout ça. C'est des mots. Mais non, on passe d'un mot à l'autre. On passe d'un mot à l'autre, jamais par la parole. C'est des mots entre... comme vous faites des images hein, comme ça, entre les trucs.
Et, ah, c'est vous qui avez parlé du mal tout à l'heure.
Et vous
oui. Autant avoir mal.
Autant avoir mal.
Donc j'ai parlé du pire.
Non, ça ne veut pas dire que je suis pour la politique du pire. C'est vous qui le dites, qu'il y avait tout un rapide discours qui vous fait dire ça. Ce qui fait qu'on finit par se disputer, par exemple. Ah. C'est pas là. Mais sinon, entre... si vous discutez avec un bonhomme comme Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy, on se dispute, ou avec Lanzmann ou tout ça. Et j'ai eu ça parce que je suis quand même, tout en étant d'une autre planète, ou en cherchant à venir d'une autre planète, en n'étant pas sûr, en me disant qu'il y a quand même quelque chose, je suis quand même sur cette bonne terre ou sur cette bonne terre, donc j'ai pas de raison de comme ça. Mais souvent, ça devient... tellement, et j'ai mis beaucoup de temps à perdre cette violence de l'accrochage, à dire du mal, ou au cahier du cinéma, quand on disait du mal, le positif. Et comme... mais il y avait quand même un film entre nous, et on pouvait juger sur pièce. Tandis que là, si on dit juste le mal, et puis qu'on enchaîne sur la politique du pire, en disant la politique du pire, on ne peut pas juger sur pièce.
Bien sûr.
Le cinéma, c'est un juge d'instruction. C'est fait pour ça. Ces philosophes, c'est fait pour instruire. Mais instruire au sens du juge d'instruction. Aller voir les pièces, aller voir, relever les traces du crime. C'est anthropologique aussi.
Alors, on va faire un peu de... on va faire une petite pause avec une... on va faire un peu de publicité pour un livre que j'ai apporté, mais que vous connaissez, je crois.
Oui, c'est Straub qui me l'a donné.
Jean-Marie Straub.
Il m'a dit, tiens, voilà un livre fou, j'ai rien compris. J'ai regardé, j'ai trouvé, bon, je n'ai bien sûr pas lu en entier, mais j'ai trouvé un travail, oui, comme on dit, un travail fou, mais remarquable.
Alors on va le décrire pour les auditeurs.
C'est une des très bonnes histoires du cinéma, même s'il n'y a aucune image ou de truc comme ça, ça en dit beaucoup.
Alors c'est un livre qui s'appelle « Passage du cinéma 4992 », comme le nombre de citations qui sont qui ont été regroupées, choisies dans ce livre par Annick Boulot.
Voilà, c'est ça. C'est un beau boulot.
C'est un beau boulot par Annick Boulot. Et c'est un drôle de bouquin tout blanc, très peu diffusé.
Mais comme l'écran, tout blanc.
Et qui procède un peu selon votre méthode, on peut dire, Jean-Luc Godard, de collage et de correspondance entre citations, d'associations d'idées.
Oui, mais j'aime mieux dire, comme Philippe Solers, que j'admire en tant que respect, en tant que critique, et à qui on reprochait de faire souvent des citations, et qui disait, ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves.
Donc il y a des preuves dans ce livre.
Il n'y a que des preuves. Et c'est une... Il n'y a que des preuves. Et c'est une épreuve de... D'abord de le lire, mais ça montre toutes les épreuves qu'a subies. Et c'est très différent des histoires de cinéma habituelles, parce que ça montre ce que les gens ont dit, que ce soit un dirigeant syndical, un metteur en scène, et il y a des...
Ou un directeur de cinéma.
Ou un directeur de cinéma. Mmh. Il y a des gens d'aujourd'hui, moi je suis aussi.
Vous y êtes souvent.
D'autres avant.
Vous y êtes beaucoup.
Je sais pas, j'ai pas...
Ici. Il y a une citation de vous d'ailleurs dès le préambule de ce livre, Passage du cinéma. Pour parler des autres, il faut avoir la modestie et l'honnêteté de parler de soi-même, avez-vous dit en 1972 à Yvonne Babi dans Le Monde.
Ah, c'était la belle époque.
Une belle époque.
Parce qu'avec Yvonne Babi, on écrivait les critiques du film ou les comptes rendus du film ensemble.
Ah, ça c'est intéressant et original. Yvonne Babi qui a été longtemps la chef du service culture du journal, oui. Le Monde. Vous avez participé parfois à certains de ses papiers.
Avec moi, je pense pas avec d'autres, mais avec moi c'était sa méthode. Je disais, faisons la phrase ensemble.
Sur des films que vous aviez réalisés?
Oui.
Ah oui.
C'était ce contre-vu.
Oui.
Il n'y avait pas encore de chien, mais c'était...
Au moins, vous ne vous sentiez pas trahi à la lecture du papier.
Ben si j'étais d'un avis, puis que je trouvais que son avis était plus intéressant, mais c'était même la construction grammaticale de la phrase, ça durait un jour ou deux. C'était un autre monde, hein.
Le Monde d'aujourd'hui, vous nous avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Godard, que vous le suiviez, vous regardiez ce qui se passait, vous lisez les journaux, regardez les actualités. Est-ce qu'il y a...
On lit deux journaux français avec Anne-Marie.
Les journaux français.
Deux seulement, Libération et Charlie Hebdo.
Est-ce que dans les actualités d'aujourd'hui, il y a des histoires où vous dites parfois ça ferait un bon film? C'est pas pour moi, mais... Ce ne serait pas un film de Godard, mais il y a une matière, il y a un matériau intéressant pour faire un film dans l'actualité.
Oui, tout est l'actualité aussi, mais on pourrait dire dans le film Socialisme, c'était précis, puisque c'était parti de l'idée de Ségolène Royal et de François Hollande à l'époque. Il y a de quoi. Puis ensuite, Ça a beaucoup dévié, mais c'était parti.
Ah bon, parce que je n'ai pas souvenir de Ségolène Royal et de François Hollande dans le film Socialisme.
Non, mais il y a Socialisme.
Oui.
Et alors, mais je ne m'en souviens plus à l'époque, mais je sais que c'était parti. Puis tout de suite, pour moi, un titre vient comme une... En banque, on dit qu'il y a des obligations bancaires. Et ça s'appelle des titres du reste. où il y a même des produits qui valent rien, mais on les titrise. Et alors, grâce aux mots, ils obtiennent de la valeur, même si ça vaut rien à cause du titre. Parce que, voilà. Et donc, j'ai toujours senti, et puis mon côté, peut-être parce que mon grand-père maternel était un grand banquier autrefois chez Paribas, ou tout ça, donc il doit y avoir une influence. Chez Balzac, quand il parle de la banque, c'est toujours la banque protestante. Je suis d'une famille protestante et comme ça. Donc il y a une influence et dans la, je sais pas là, comment est-ce qu'on peut dire ça, dans la métaphore banque ou comme ça, il y a le mot dette. Avoir une dette, comme ça. Et ce que j'aime pas, c'est avoir des dettes et faire un film, c'est payer ma dette aussi. D'une certaine façon, qui doit être inconsciente ou symbolique ou tout ça. Donc le titre,
à qui vous
le titre dit je dois, j'ai un titre obligataire. Le voilà, film socialisme ou passion ou bien adieu au langage. Eh ben je dois payer ma dette.
À qui?
À ceux qui verront que j'ai payé. S'ils le voient, parce que souvent on me dit que je l'ai pas payé.
Oui, mais la dette, elle préexistait au film, donc la dette.
Non, c'est en moi, tout le monde a une dette pour ça. On examine
à l'égard
pas
de quelqu'un.
Non plus, quand on dit la dette de l'État ou des choses comme ça, ça va très bien. C'est des jeux de mots ou des falsifications bancaires ou des trucs comme ça, mais c'est un problème, la dette. L'ancien chroniqueur du Monde économique, qui s'appelait Jean-Paul Fabra.
Paul Fabra.
Paul Fabra.
Paul Fabra. Voilà,
a écrit un livre qui est très beau, qui s'appelle Le chômage et le diable. Dans le chômage, il y a quelque chose de dette. Et qui la paye, c'est plutôt eux. Mais en fait, tout ça, c'est des choses.
Donc, si
c'est pas simple. Le cinéma est intéressant si on sait un peu en faire. Il suffit pas d'avoir d'envie, faut être capable. Je suis loin d'avoir toujours réussi, mais à des moments, on peut tout à coup, oui, faire voir ou sentir quelque chose, non pas prouver quelque chose, comme je l'ai fait aussi quand on faisait du cinéma dit militant. Mais déjà là, je sentais qu'il fallait que je me différencie complètement des autres cinémas qui existent toujours encore, comme il y a pas loin d'ici, à Nyon, chaque année, un festival qui s'appelle Vision du réel.
Si je résume, Jean-Luc Godard, si je vous ai bien entendu, pour rembourser une dette, vous émettez des titres qui sont des titres de films.
Qui finissent par faire un film. Voilà. Et il y a des gens qui, peut-être des banques, qui me prêtent de l'argent pour payer ma dette. Qui, eux, y voient autre chose.
Vous allez continuer?
Ça dépend pas de moi, ça dépend si je trouve un peu, ou si le producteur du film est content et qu'il a envie de continuer, parce que c'est des films qui ne coûtent pas cher, entre 500 et 600 000 euros. Celui-là coûte cher uniquement parce qu'il a duré 4 ans et qu'il fallait, même s'il y a peu de gens, il fallait payer les gens, un peu de machines, des trucs et comme ça, et sur 4 ans, ça finit par faire beaucoup.
Ça dépend, ça dépend aussi de votre envie, à vous.
Ah oui, mais les salons.
Elle est intacte?
Ben, il n'y a pas grosse différence entre envie et nécessité.
Et donc vous avez, vous ressentez la nécessité de continuer de tourner?
Ben, je sais faire que ça.
Donc, adieu au langage, mais pas adieu au cinéma.
Non, parce que dans le cinéma, qu'il soit muet ou parlant, ça, je vous rappelle que la Nouvelle Vague, quand on a, pour moi, découvrir le cinéma, est très tard, pas comme le Louche à 3 ans, quand j'ai vu un vieux Mickey, si vous voulez, mais vers 20 ans, ne sachant pas trop quoi faire avec des bacs moyens, des trucs, ne ça. Ayant quitté ma famille, parce qu'elle voyait que je ne pouvais pas non plus devenir un docteur ou un ingénieur ou que sais-je, ou comme ça. Et donc, oui, qu'à la Cinémathèque française ou dans certains ciné-clubs, à la Cinémathèque française quand même, on a vu un musée qui n'existait pas ailleurs. Ma mère connaissait le musée du Louvre ou les trucs, mais elle connaissait pas la Cinémathèque française. Elle savait pas ce que c'était. Elle savait pas bien qu'elle n'ait vu que des films muets, elle ne savait pas qu'il y avait des vieux films muets qui étaient aussi beaux que les livres qu'elle lisait. Donc c'était un peu comme un explorateur d'autrefois découvrant un nouveau peuple, un peuple fantôme, oui, mais et un nouveau continent. Et on voyait des films modernes à l'époque, les films qui sortaient petit à petit, mais il n'y avait aucune différence entre eux et un ancien film de Griffith pour parler de metteur en scène célèbre. C'était le même monde. On découvrait que le muet parlait beaucoup mieux que le parlant. Ce qu'on trouvait des metteurs en scène comme Chaplin et comme qui a mis beaucoup de temps à revenir au parlant.
Vous-même, vous êtes né juste avant l'avènement du parlant.
Je suis né en même temps. Et du reste, j'ai peu parlé.
C'est lié.
Sûrement aujourd'hui, c'est peu lié. Pendant des années, j'ai parlé très tard. J'ai parlé très tard, et puis à des moments, à 15-16 ans, après avoir lu une fois un bouquin de philosophie de Brice Barin, qui s'appelait « Remarques sur la nature et les fonctions du langage », j'ai quasiment cessé de parler comme un, je sais pas, volontairement ou pas, comme un autiste, comme ça.
Ça a duré longtemps ?
Un an ou deux, ma mère s'est inquiétée aussi.
Ah oui ?
Et je lui ai dit « Non, c'est de la philosophie, il faut pas t'inquiéter, tout ça ».
Aujourd'hui, Jean-Luc Godard, chacun peut avoir sa cinémathèque chez soi.
Oui.
C'est quand même une révolution. Est-ce que vous y... C'est une évolution.
Évolution, oui. Ouais. Ah ben oui.
On peut avoir le film qu'on a envie de voir, on peut quasiment le voir dans le quart d'heure. Hein.
C'est plus un film, c'est un DVD sur un petit écran, ou même un écran de plus en plus grand. Mais
ça reste le film.
Mais on ne fera jamais des écrans qui feront le mur du fond, sauf chez des gens très riches et encore, simplement parce qu'à ce moment-là, il faudrait que l'État aide à construire des maisons, des appartements plus grands que ceux qu'il construit. Donc on peut pas. Donc on voit ça. Il y a quelque chose qui passe. Il passe, j'en vois. Mais il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe, j'en vois. J'aime bien historiquement. Je vois un vieux Lino Ventura, je le trouve toujours aussi abominable, mais ça me gêne moins.
Qu'est-ce qui est abominable, le film ou Ventura?
Lino Ventura.
Ah bon, il est abominable.
Mais le film aussi, ouais. Il n'a jamais fait le bon film.
Vous aimiez bien De Funès avant?
Non, mais je le respecte parce qu'il me fait rire comme tout le monde.
Ah,
je
vous fais rire donc.
Je suis pas
c'est important.
Très, mais oui, mais je suis pas. Je suis normal, si vous voulez.
Ben oui, tout à l'heure, je vous demandais ce que vous aimiez dans la culture populaire d'aujourd'hui. Donc, on est un tout petit peu renseigné. On est un tout petit peu renseigné.
Oui, il n'a pas fait les... Pour moi, il n'a pas pu faire les films qui étaient à la mesure de son talent.
Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer
avec? Ah ben, je ne sais pas. Mais pas jouer, faire les films, ou jouer, ou d'autres. Et comme ça, j'aime beaucoup Darry Cole, par exemple. Mmh. Il n'y a que Sacha Guitry qui lui a donné dans un ou deux films. Voilà. Mais Ina, quand Larry Kohlfeldt reporter, le film ne vaut pas la petite séquence qui joue dans Trois fonds la paire.
De Sacha Guitry.
Oui.
Donc, je reviens à ma question. La cinémathèque que vous pouvez avoir, vous,
c'est pas une cinémathèque.
Chez vous, ou non. Une DVD tech, ou des cassettes, ou voilà, des DVD, etc. Vous y retournez souvent? Vous visionnez souvent des choses que vous avez envie de revoir?
Non, c'est pas envie de revoir, c'est envie de voir ce qui se fait, ou ce qui ne se fait plus. Pendant que je tournais, là, les 4 ans, j'ai... De temps en temps, pendant le tournage, je vais voir. C'est pour voir soit ce qu'il faut, soit quelque chose qui s'était fait, et je peux non pas essayer de le refaire, mais aller dans des endroits comme ça, soit quelque chose qui ne se fait plus, qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, et qui m'encourage, si je vois un violin au Mantua, je me dis, tiens, ben, au moins, je ne fais pas ça.
Il y a des citations aussi dans vos films, c'est Métropolis, hein, qu'on voit dans, oui, Adieu au langage, et puis les Cheyennes, oui, de John Ford dans Film Socialisme.
Oui, mais si vous voyez Métropolis, comment est-ce qu'elle s'appelait, Brigitte Elbe, dans Métropolis.
De Fritz Lang.
Et mais c'est la seule fois, alors là, de toute l'histoire du cinéma et d'aujourd'hui, je m'en glorifie pas. Je me dis, je devrais pas être seul à faire, non pas exactement ça, mais quelque chose comme ça. C'est qu'on voit un personnage, bon, qui n'est pas un personnage pour moi, de la jeune femme qui est une figure, une entité que j'ai essayé de mettre nue, non pas pour faire du sexe, mais pour la voir comme un animal, qu'il n'y ait pas de différence. Les animaux, on les voit nus. Ils ne sont pas gênés, et nous non plus. C'est Derrida qui disait ça en face de son chat. Eh bien là, elle est là, elle jette un coup d'œil à la télévision, ce qu'on voit dans des centaines de films, et elle regarde. Donc on filme quelqu'un qui regarde la télévision, un autre film. C'est pour ça que je dis, c'est pas une citation, là. C'est autre chose. Si l'auteur du film me reproche ça, comme c'est Fritz Lang qui me le reprochera plus et me l'aurait jamais rapproché, peut dire, oui, vous lui avez, en termes monétaires, c'est de la valeur ajoutée. Ouais. C'est autre chose. Ça n'est plus du capital. C'est uniquement de la valeur ajoutée.
Il y avait un peu de Varda, d'Agnès Varda dans le précédent.
Mais par exemple, parce que tout à coup, je vois un truc qu'elle a fait chez elle, comme ça, de danseur qui danse. Et puis tout à coup, je me dis, mais voilà, c'est Israël-Palestine. Alors je trouve une chanson israélienne, une chanson palestinienne, je rajoute parce que leur problème vient des Allemands aussi, et puis voilà. Et c'est même mieux chez moi que chez elle, si vous voulez, parce que ce n'est que de la valeur ajoutée. Je dis voilà, Israël-Palestine, c'est ça, pourquoi c'est pas ça? Je ne sais pas, les gens, moi je me dis même pas, pourquoi c'est pas ça? Le seul problème, j'avais dit, je ne m'en souviens plus, c'est-à-dire entre Israéliens et Palestiniens, pour résoudre le problème, leur frontière et c'est tout, c'est que chacun, ils achètent 1 million de chiens d'un côté, 1 million de chiens chez l'autre. À ce moment-là, ils se parleront. Pas parce qu'ils ont envie de se parler, parce qu'il y a des chiens. Ici, quand on se promène avec notre chien, on rencontre, et ça devient finalement une petite bande ou une petite truc, régulièrement, dans les mêmes endroits de la forêt ou près du lac. C'est des dames, quelquefois des messieurs, qui ont chacun un chien avec lequel ils communiquent comme nous. Et quand on est... Si je les voyais au café et qu'on parlait de politique ou de chien, je ne pourrais pas m'entendre avec eux, ni même leur dire 3 mots. Et comme il y a le chien... On parle du chien et on parle d'autre chose, et il n'y a pas de dispute.
Et ça crée du lien social, le chien. Alors, donc, c'est ça le facteur, ça l'idée.
Ça crée un lien.
Ça crée du lien.
Je ne sais pas s'il est social ou pas, mais si on veut pas, si on veut un lien social, il faut du chien. Parce que d'autres, une oie, c'est beaucoup, c'est dangereux, parce que si elle vous aime, elle finit par vous massacrer. Des éléphants, c'est trop lourd. Encore que j'ai vu un couple américain qui avait deux bisons chez lui. Et leur problème, c'était le caca. Parce que c'était des énormes tas qu'il fallait nettoyer trois fois par jour. Mais ils avaient quand même deux bisons chez eux.
Vous m'avez dit que vous revoyez, il vous arrivait de revoir des films ou des bouts de choses comme ça pour vous inspirer. Est-ce qu'il vous arrive de voir, enfin plutôt de revoir des films que vous avez aimés par plaisir, simplement par plaisir de les retrouver?
Rarement, à cause du fait que l'écran et la salle n'est plus là. Rarement à cause de ça, et que c'est comme si un moine disait, est-ce que ça vous arrive des fois de vous retrouver Dieu chez vous comme ça, et qu'il dit, ben non, il n'y a plus d'église. Enfin, voilà.
Donc la salle est irremplaçable là,
pour
au
moi.
Au cinéma.
C'est un lieu très... Oui, ça a été une invention. C'était une invention. C'était différent du café-concert. C'était différent du stade. C'était... Il y a quelque chose. Bon, mes antécédents protestantes comme ça me le font plus voir comme d'un côté un peu religieux. Je me souviens que j'avais écrit un texte qui était comme ça, qui parlait de l'équipe des films, sur les films, et que j'avais intitulé « La paroisse morte ». Voilà. J'aime beaucoup les romans de Bernanos, par exemple.
Donc il est indispensable d'être dans une salle pour communier ensemble
on
face
peut pas
à un film.
Et puis aller dans une salle, on ne peut plus, c'est trop loin.
Ça dépend.
Pour moi, c'est trop loin.
Pour vous, c'est trop loin.
Mais à Paris, je sais que des fois je vais à Paris, j'achète Pariscope, je regarde les films, et je ne peux pas parce que je n'habite plus Paris. Donc d'y aller de l'étranger comme ça pour voir un film, je suis dans le texte laudatif de l'auteur. Ah, c'est ce hoax que j'ai bien aimé. Mais donc je vais aller. Je peux pas. Je peux pas parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas ce qu'on avait à l'époque de la nouvelle vague. On y allait à 10h du matin, on sortait à minuit, des fois moi avant, ou des fois Rivette restait... Quatre fois pour le même film, et moi j'allais en voir quatre autres pendant ce temps. Et après, on revenait à pied.
Ouais.
Donc c'est pas nostalgique. J'ai dû avoir un moment de nostalgie. Comme, là, je le vois comme un fait historique, si vous voulez.
Et donc la consommation de films telle qu'elle se pratique de plus en plus aujourd'hui, sur des écrans et même par vidéo à la demande, c'est autre chose.
Mais même ça, c'est fini. Je connais un magasin vidéo à Genève qui est extrêmement bien achalandé, qui a même des vieux VHS. C'est comme ça, tous les VHS ont disparu, par exemple, à cause des DVD. Et puis aujourd'hui, grâce avec la vidéo à la demande, Netflix ou tous ces trucs, vous voyez que je suis au courant, tous ces trucs comme ça, eh bien, il va disparaître. Et il me dit, depuis 30 ans, je suis là-dedans. Et il ne parlait même pas de lui, il disait, mais c'est tout ce qu'on a amassé qui va disparaître. Et ce ne sont que des DVD, déjà que je trouve limite. Limite de ne devoir voir que des DVD. Mais...
Heureusement, il y a des gardiens vigilants, notamment en France, pour restaurer les pellicules.
Mais il ne faut pas les restaurer. Mais il ne faut pas les restaurer. Il ne faut pas restaurer la Sixtine. Elle est comme ça. Si elle s'effondre, elle s'effondre. On n'a pas besoin de restaurer et de cosmétiques. Le truc, c'est pas besoin.
Même quand le film se dégrade.
On le laisse. On peut peut-être le solidifier un peu, mais on peut pas tout garder. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire il faut mieux...
Bah, si on vous apprend que vos premiers films tombent en poussière...
Ben, je dis, ben, tant mieux, poussière, ils retourneront poussière. Poussière, je suis, etc. Non.
Ça ne nous fera rien.
Oh non, c'est ridicule.
C'est perdu.
C'est ridicule, c'est de l'art. Il ferait mieux de faire des films plutôt que de fabriquer, que de fabriquer et de maquiller, de sauver le visage de X ou Y pour qu'on voit. C'est nul. Il ferait mieux de faire d'autres avec cet argent, de faire un film intéressant qui passerait dans une salle ou même dans un DVD s'ils veulent. Mais de produire, il n'y a pas besoin d'engranger. Il n'y a pas besoin d'engranger du capital, un capital culturel. La seule chose intéressante, c'est la valeur ajoutée. Mais,
ah, mais pour avoir la valeur ajoutée, il faut connaître ce qui s'est fait auparavant.
Non, il faut de la valeur ajoutée séparée du capital.
Mais il faut connaître ce qui s'est fait auparavant. Il faut que les jeunes générations puissent...
Quand on dit valeur ajoutée, ça peut être valeur soustraite. Enfin, il y a beaucoup de mots pour ça.
Jean-Luc Godard, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, il faut que les jeunes générations, ceux qui pourraient avoir envie de faire des films à l'avenir, savent ce que leurs aînés ont pu produire.
Mais absolument pas. Absolument pas. Quand on a eu envie de faire cinéma, c'est pas parce que nous, on savait rien de nos aînés. On a été attirés. On a été attirés par quelque chose. Et c'est pas parce qu'on va à l'église. Sinon, ça devient de la religion. Et on n'y a pas échappé aussi. Si vous allez à l'église et que ça vous plaît, c'est pas pour... Vous n'allez pas vous transformer en moine français. Ou alors ça vient de la folie ou de la drogue. C'est de la drogue.
Vous n'êtes pas venu au cinéma aussi en admirant quelques grands maîtres?
Mais non, parce qu'on l'a découvert. On l'a découvert. On ne savait pas qu'il y avait des grands maîtres. Je savais un peu qu'il y avait Beethoven, Cézanne, Raphaël, comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait Fritz Lang, Griffith. Je ne savais pas. Un jour, on l'a découvert. On n'a pas cherché à le transmettre à nos enfants. En plus que, heureusement, moi, je suis délivré de ce problème.
Mais aujourd'hui, ce serait dommage de perdre les œuvres de Fritz Lang, de Griffith ou de Hitchcock, non?
Vu ce qu'on en fait, vu ce qui se fait, vu ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé en Tchétchénie, vu ce qui s'est passé sous Hitler ou comme ça, non.
On fait table rase.
On fait pas table rase, elle se fait elle-même. Si vous voulez entretenir un peu sans trop le changer, mais vous avez pas, vous allez pas transformer les pyramides d'Égypte en tour Montparnasse. Ben voilà.
Donc on laisse.
Alors on peut l'entretenir, on peut étudier son histoire. Et il y a des livres ou des enquêtes aussi qui sont faites pour ça aux éditions Capricci. Ils publient des bons livres sur des aspects un peu inconnus. J'en ai un là, je ne l'ai pas lu, je l'ai tout de suite mis de côté parce que c'était trop. Mais elle... Non, pas trop, un peu, mais pas trop. À partir du moment où vous n'allez pas essayer de sauver à chaque saison les feuilles qui deviennent automnales, en disant ah, « si, laissez cette bonne nature faire avec votre aide, peut-être éliminer certains moustiques ou trucs, ou comme ça, mais enfin, non, c'est un peu bête, c'est de la culture européenne occidentale qui est pas bien.
À la télévision, vous regardez toujours du football?
Non.
Plus?
C'est fini? Non, j'ai arrêté.
Ça vous a passé?
J'ai arrêté le tennis aussi parce que j'en faisais plus. Donc ça m'ennuyait de le regarder.
Vous jouiez au tennis,
oui.
Et vous avez arrêté,
ouais,
de jouer.
Oui.
Et vous regardiez les tournois et vous ne les voyez plus.
Un petit peu, mais d'un point de vue historique. Hein, l'histoire...
Et le football, ça vous a passé aussi?
Ça m'a passé aussi.
Séances de pénalty.
Oui. Il faudrait être sûr de tomber dessus.
Ah. Bon.
Qui ne diffuse que ça.
Oh. Uniquement les tirs au but ou les pénaltys.
Oui, qu'il y a au moins une chaîne qui diffuse que les pénaltys. Et s'il n'y a pas de pénaltys, ben, elle ne diffuse pas.
Pourquoi ça vous intéresse tant que ça, les pénaltys? Parce que c'est l'instant dramatique, c'est le... Qu'est-ce qui...
Parce que jeune, j'ai joué dans une équipe comme gardien de but. Donc je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, c'est un peu simpliste à dire aussi, mais c'est comme ça. Et puis que là, on n'a pas besoin de voir tout le match. Et puis surtout que je trouve que c'est mal filmé. Sinon, je regarderais. C'est très très mal filmé. Est-ce que ça peut être bien filmé? C'est différent. Est-ce que le basket peut être filmé la même chose que le football, ce qui est à l'heure actuelle? Le tennis, c'est absolument effroyable, c'est champ contre champ, qui n'est absolument pas là, qui n'est même pas d'essayer de refaire la réalité d'un spectateur, quelque part, de côté ou derrière. Et ils disent tous, ce qui est important, c'est le mental. Hein. Les mentales, ils sont très forts, mais il y a le mental qui craque, ou au contraire, un truc comme ça. Mais on devait faire un film, Jean-Paul le sait, à Roland-Garros. Ça a chopé.
Ah bon?
Parce que ça a chopé, parce que même avec une petite caméra, ils ne voulaient pas que je sois sur le terrain.
Ah oui?
Même avec une caméra grande. Grande comme ça, une boule à laquelle on a.
Comme un stylo, quoi. Enfin, un gros stylo.
Oui, non, même pas, mais ces petites caméras comme à laquelle on a tourné Adieu au langage. Des petites caméras dites d'amateurs ou comme ça. Bien qu'elles soient très professionnelles dans leur. Oui, dans le fait, puisqu'elles font de la HD, de ceci et de trucs comme ça. Non, mais c'était. Aussi parce que ce que je voulais filmer, c'est partir d'un type qui viendrait, un joueur de tennis, qui viendrait faire les éliminatoires. Donc déjà filmer son trajet. Et puis ensuite il arrive aux éliminatoires. Bon, donc il a le droit d'aller dans le tournoi. Il fait son premier match. Mais chaque fois, on le voit. On voit ensuite le match d'après et on le quitte lui. Donc chaque fois, on voit tout le tournoi jusqu'à la finale. Mais chaque fois avec un seul joueur. Et on voit l'autre après. Alors des fois, on voit celui qui sert ou celui qui reçoit, suivant les cas comme ça. Et puis ça a été refusé. C'est des trucs. Le football, je ne sais pas si ça peut être bien filmé en direct. En recomposé, oui. Ce qu'il faudrait, c'est le filmer en direct, avec beaucoup, beaucoup de choses, et ensuite, deux ou trois mois après, remontrer le film. Et de montrer la Coupe du Monde uniquement à ce moment-là.
Ah.
Voilà. Alors, la Coupe du Monde, au Brésil, vous les laissez voir, mais pas de caméra, pas de télévision, et comme ça. Mais trois mois après, vous montrez le film. C'est comme ça que étaient filmées les Olympiades autrefois. Plus aujourd'hui.
Les Olympiades autrefois.
Les Jeux Olympiques.
Oui, les Jeux Olympiques. Oui, ils étaient filmés, vous voulez dire, avec des caméras cinéastes, pas la télévision.
Et qui faisait un film, c'était un metteur en scène plus ou moins célèbre et comme ça. Mmh. Et puis qui le faisait, qui n'était vu après.
Mmh. Oui,
si les gens se souviennent du film de Léonie
Funchal, oui.
C'est parce qu'il a été vu un an après. Mmh. C'est pas pendant. Ben voilà, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Ça les regarde, et ils ont trop de choses à faire, ils peuvent pas. Bruxelles peut pas tout faire, Obama peut pas tout faire. Peut-être le mardi, d'après ce que j'ai lu dans Le Monde, il peut voir la liste des gens qu'il faut exécuter, et il coche un ou deux noms sur la liste. Obama, il fait ça, ils appellent ça le mardi la terreur à la Maison Blanche. C'était dans Le Monde, hein. C'est pas moi qui invente ça.
Je vous crois.
Je serais pas capable.
Vous avez cité un certain nombre de vos camarades de début des années 60, Jean-Luc Godard, camarade de la Nouvelle Vague, Truffaut, Chabrol, Romère.
C'était Truffaut, Rivette.
Et Rivette. Rivette.
Plus quelques compagnons, quelques amis, plus, des fois plus jeunes, et des trucs comme ça.
Mis à part Rivette, ils ne sont plus là. Vous êtes le dernier.
Chabrol. Non, il y a toujours... Agnès Varda existe toujours. Elle faisait partie d'un tout autre groupe qu'on appelait le groupe Rive Gauche, simplement parce que nous, Rive Droite, les Cahiers du Cinéma étaient situés à l'époque en haut des Champs-Élysées. Donc voilà. Donc on traversait chaque jour, enfin moi en tout cas, chaque jour à pied pour aller jusqu'en haut des Champs-Élysées. Et puis voilà. Mais on était très bons. Il y avait beaucoup, ouais, beaucoup d'autres jeunes critiques ou comme ça, dont certains, je me souviens encore avec affection quand je revois leur nom, ou comme ça, qui existent toujours. Douchet, par exemple. Jean Douchet, ou comme ça. Ou...
Mais de ces cinéastes emblématiques de cette époque, vous êtes... qui tournent encore, vous êtes l'un des... Vous êtes l'un des tout derniers survivants. Ça, enfin, j'y pensais en venant et en revoyant l'hommage que vous aviez fait pour Romère.
Oui.
Au moment de la mort de Romère.
Oui.
C'est quelque chose quand même. C'est une époque,
oui,
qui.
C'était. Oui, mais c'était tout le quartier latin de l'époque et tout chose. Dupont avait deux cafés. Un au début de la rue Soufflot et un au début de la rue des Écoles. Ou comme ça. Non, c'était... Ben oui, mais écoutez, ça existe à tout le monde. Quand on dit Romère, moi j'ai connu un petit peu tout à fait différent que de ce qu'on peut dire dans les livres. Ou comme ça, c'était ça que j'aimais à rappeler.
Mais en même temps, c'était des gens, c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'était des gens qui, avec qui vous êtes disputé, souvent. Les disputes sont restées célèbres avec Truffaut dans vos correspondances. Oui, mais c'est des gens
qui... C'est la seule qui a été mise en exergue par l'autre.
Mais il y a eu des disputes avec tous.
Non.
Non ?
Non, quasiment pas. On se disputait sur les films, mais pas entre nous. Et en fait, on ne connaissait rien, chacun l'un de l'autre. On ne connaissait pas leur femme, chacun ne connaissait pas la petite amie de l'autre, s'il en avait une. Ou... Non, on était... C'était des moines, on était plutôt des moines qui ne savaient pas si l'autre, combien de fois par semaine, l'autre forniquait, si vous voulez. C'était des choses comme ça.
Vous avez d'abord parlé des films des autres, mais ensuite, vous... Quand vous êtes passé de l'autre côté en réalisant vos propres films, il y avait parfois des discussions sur les films que vous faisiez. Et donc, il y avait des gens, des camarades qui pouvaient vous dire ce qu'ils pensaient de vos films.
Et c'est à ce moment-là qu'on s'est séparés.
Ah oui.
C'est à ce moment-là, très vite. Moi, j'ai mis longtemps à oser dire à François que je n'aimais pas, que je trouvais absolument nuls ces films.
Ils étaient vraiment nuls ?
À mon avis. Mais Rivette, un peu moins longtemps, parce qu'il a tourné aussi un film avec Anna Karina et tout ça, et que je respectais, même si j'aimais pas tout, il y en a un ou deux que j'aime beaucoup. Romère, j'appréciais pas du tout ce qu'il commence à faire, mais pendant longtemps à Paris, il y a une vingtaine ou une dizaine d'années, on habitait le même immeuble, donc on se croisait de temps en temps, mais on se disait rien. Non, on savait pas. On était nos propres fantômes, je sais pas comment dire, mais c'est pas, et qu'il y avait une grande amitié, mais c'était uniquement les films. Je me souviens qu'une fois Rivette m'avait dit de Une femme est une femme, ah, c'est du Picasso, et j'étais très fier. Et c'est un film que je déteste et que je trouve nul.
C'est drôle parce que vous savez qu'il y a un cinéaste d'aujourd'hui qui s'en est inspiré pour... c'est Christophe Honoré pour les chansons d'amour. Il a tourné précisément dans les rues, dans le quartier d'une femme est une femme. Il s'est inspiré d'Anna Karina pour l'un de ses personnages féminins, mmh. et il a pensé au couple
Belmondo,
couple Briali-Belmondo pour composer son trio amoureux dans des chansons d'amour. Ça vous semble ridicule ?
Oh, pauvre garçon, écoute, il fait ce qu'il veut.
Très bien. La mort, vous y pensez, Jean-Luc Godard ?
Non, la disparition. Non, je pense à la souffrance. Parce que je me sens souvent pas plus très bien avec l'âge, mais je pense à la souffrance. Le reste, non.
Donc votre... Vous voulez d'abord éviter la souffrance ?
Ben moi, mais je me dis que il n'y a pas de raison que j'évite la souffrance avec tout ce qui se passe dans le monde et la souffrance de tous ces gens. Donc il faut, c'est tout à fait normal que ça m'arrive aussi.
Mais on vous sent assez serein, assez détaché à l'égard de cela.
Ouais, parce que j'ai pas trop mal au bras juste en ce moment.
Donc vous n'avez pas peur?
Non, puis on peut y penser. Non, on peut y penser, il faut que ça... Je sais pas. Et puis j'ai souvent pensé à la fin de Paul Lafargue et de Laura Marx. Là, c'est la petite fille de Marx ou je sais pas quoi. Paul Lafargue était un intellectuel du temps de la... qui avait écrit Éloge de la paresse du temps de l'affaire Dreyfus, des choses comme ça, et qui, à l'âge de 65 ans, ils ont décidé d'arrêter, et voilà, de partir. Donc ça, je pense quelquefois, j'ai toujours un livre qui avait été interdit en France à l'époque, qui s'appelait...
Suicide mode d'emploi,
oui.
Vous l'avez toujours ?
Oui. Il y a longtemps que je ne l'ai pas feuilleté.
À portée de main ?
Oui.
Merci Jean-Luc Godard.
Merci à vous.